9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On parle beaucoup de désinformation depuis quelques temps, mais jamais de désinformation économique. La journaliste Mireille Zaki est la première à lui consacrer un livre, avec beaucoup d'exemples en plus. Elle est ma première invitée ce matin. Je reçois ensuite Emery Doliger, l'auteur des Invisibles de l'Élysée, tous ces métiers qui permettent à la présidence de la République de fonctionner. Il va nous les expliquer. Et l'on terminera l'émission avec Gauthier Battistella, dont le nouveau roman a pour héros un grand chef étoilé. Et oui, vous l'avez sans doute remarqué, les grands cuisiniers sont devenus les nouvelles rockstars.
Europe 1.
Bonjour Mireille Zaki.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste économique, vous avez longtemps été responsable du supplément financier du quotidien suisse Le Temps et rédactrice en chef du magazine suisse Bilan. Vous publiez aujourd'hui chez Favre des informations économiques. Les États, dites-vous, les gouvernements, les grandes entreprises, les lobbies, les organisations internationales, les agences de relations publiques, les think tanks, les services
les
de
armées.
Renseignement pratiquent la désinformation.
Les armées aussi.
Les armées aussi pratiquent la désinformation économique. Alors, dans quel but ?
Pour ce qui est des, tout ce qui est des chiffres macroéconomiques, il y a des raisons de budget, des raisons sociales. Par rapport au fait, par exemple, si vous sous-estimez l'inflation, ça a des conséquences. Vous n'avez pas besoin de revaloriser les salaires autant. Si vous sous-estimez le chômage, vous avez aussi des politiques sociales qui vont être moins exigeantes. Vis-à-vis de l'extérieur, vous pouvez montrer une image de suprématie économique qui peut être supérieure à la réalité économique d'un pays. C'est un peu le cas en Occident où on a un certain déclin parce qu'on a un surendettement important. On a une perte de pouvoir d'achat des classes les plus défavorisées qui ont été les grandes perdantes de la globalisation. Ceci n'est pas reflété adéquatement dans les chiffres.
Et qu'est-ce que vous entendez exactement par désinformation ? Comment est-ce qu'on s'y prend ?
En anglais, on dit misinformation ou disinformation. Misinformation, c'est volontaire, mais disinformation, c'est pas volontaire. En français, c'est le même mot. Donc, ce n'est pas forcément volontaire, mais c'est cette tentative d'embellir les chiffres qui est très courante, finalement, dans les statistiques, qui va faire qu'on va utiliser des méthodes, si vous voulez, de calcul, qui vont éviter toutes les données qui vont amener des chiffres plus élevés. On va prendre pour l'inflation, on va prendre les données qui vont réduire l'inflation, on va les favoriser, elles vont avoir plus de place, on va les surpondérer. La méthode va pousser vers la recherche de tout ce qui fait baisser les prix, mais pas vers ce qui fait augmenter les prix. C'est des méthodes qui ont été choisies dans les années récentes, hein, qui ont été modifiées. Les méthodes statistiques ont changé à travers les périodes.
Il y a un cas qui est célèbre, qui concernait les déficits des États, hein, en tout cas de certains États, avant d'entrer dans l'euro. On sait qu'un certain nombre d'États ont truqué leur bilan.
Bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé du cas de la Grèce. En fait, c'est pas du tout la Grèce qui est le cas unique. C'est peut-être un cas extrême, mais certainement pas le seul. Et après l'entrée de plusieurs pays européens dans le pacte de stabilité et de croissance, ça a continué. C'est-à-dire que beaucoup de recherches académiques montrent que les déficits ont été systématiquement sous-estimés pour des raisons électorales, pour des raisons de rester dans le pacte, de rester dans les clous des exigences de l'Union européenne. Et ça, c'est aujourd'hui démontré pour plusieurs pays européens et pas seulement à peu près tous les pays européens, finalement, s'y sont adonnés.
Mireille Zaki, souvent quand on parle de désinformation, on parle de la désinformation qui vient du bas. Les fake news, les complotistes, c'est les gens comme vous et moi. Là, vous parlez de désinformation qui vient du haut.
Exactement. Je pense que de loin, la désinformation qui vient des gouvernements, des grandes entreprises, des lobbies, des groupes d'intérêt, des armées aussi, parce qu'on est en plein aujourd'hui avec la guerre Ukraine-Russie, ça, c'est de loin la désinformation qui a le plus d'impact et c'est de celle-là qu'on doit parler. En tant que médias, on doit être les plus vigilants par rapport à ce qui vient d'en haut, parce que finalement, l'État est au service du citoyen et c'est pas l'inverse. C'est l'État qui doit la transparence aux citoyens, la bonne information, le droit à une information correcte sur mon pouvoir d'achat, sur mes possibilités d'accéder au logement, par exemple, à l'achat immobilier. Quand on me dit que les taux d'intérêt sont très bas, puis que je vois que mon banquier me met toutes sortes de restrictions pour l'achat immobilier, parce que j'ai pas le salaire qu'il faut, etc., je réalise qu'il y a de la désinformation autour de la facilité d'accéder à l'immobilier. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont beaucoup plus de peine à acheter des maisons, qui sont en fait une des sources d'épargne principales pour les classes moyennes, que les générations précédentes. Et ça, c'est un fait en France, en Suisse, partout, aux États-Unis, bien sûr, parce que tous les chiffres laissent penser à une situation économique bien plus favorable. Vous prenez aussi le PIB. Le PIB est un indice qui est très, très limité dans ce qu'il veut dire, mais on n'explique pas ce qu'il dit, on n'explique pas ce qu'il dit pas. On n'explique pas aussi qu'un PIB qui est généré avec beaucoup de dettes, par exemple la France, vous avez un PIB une dette qui est 120% du PIB, ça veut dire que pour un PIB qui a un peu moins de 3 000 milliards d'euros, vous avez généré plus de 3 000 milliards de dettes, ce qui veut dire que ce n'est pas une croissance performante. Ce n'est pas la même chose qu'une croissance qui ne se baserait pas du tout sur de la dette, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont peu rappelées, peu évoquées. On parle peu des indicateurs démographiques et de développement humain, comme le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie, le taux de suicide, le taux d'incarcération dans un pays. Tout ça dit beaucoup de choses.
Oui, vous dites, en fait,
on
se focalise sur le PIB par habitant, alors qu'il faudrait se pencher sur 140 indicateurs de développement économique différents pour avoir une image précise et plus vraie, en fait, de la richesse ou du bien-être des habitants d'un pays.
C'est vrai. Et c'est pour ça que j'encourage chacun à aller voir un peu sur le site de la Banque mondiale, regarder, vérifier deux ou trois autres indicateurs autres que le PIB, pour se faire une idée plus complète de la performance d'un pays et ne pas juste acheter les déclarations très marketing aujourd'hui, malheureusement, qui minent beaucoup de la communication économique et financière. Et c'est la même chose dans les rapports d'entreprise aussi, les rapports annuels, les rapports trimestriels, qui sont truffés de marketing et de langage promotionnel ou alors de langage excessivement technico-légal que personne ne peut lire, en fait, à part un avocat spécialisé.
Oui.
Et finalement, l'information pertinente, elle se noie dans une masse incroyable de langage qui n'apporte pas vraiment pour le citoyen une information valable, alors que des entreprises de cette taille, aujourd'hui, ont une responsabilité évidente et des comptes à rendre au public. Et on doit pouvoir trouver les informations les plus importantes rapidement, comme c'est quoi le vrai bénéfice, c'est quoi la dette, c'est quoi les coûts, c'est quels impôts ils ont payés, qui sont les actionnaires.
Je vous interromps, Miretzaki, on fait une pause. Ne quittez pas, vous avez encore beaucoup d'autres exemples à nous donner.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec la journaliste économique Miretzaki, qui publie des informations économiques aux éditions Favre. Un bon exemple que vous donnez dans votre livre, c'est n'importe que le hausse du marché boursier. Elle est toujours présentée comme le signe d'une économie qui se porte bien, alors que pas du tout. Généralement, la hausse du marché boursier, elle est due à la politique monétaire.
Exactement. Alors, première grosse désinformation, hein. On fait comme si les marchés étaient montés parce que les entreprises sont performantes, qu'elles font elles-mêmes beaucoup de croissance, qu'elles ont des marchés qui sont en très bon état partout dans le monde, etc. Non, depuis maintenant 2009, les banques centrales n'ont pas cessé d'injecter des fonds dans la bourse. Ça veut dire qu'elles achètent elles-mêmes massivement des titres, ce qui fait monter artificiellement la bourse. Et c'est une forme de subvention à quiconque est investi en bourse et surtout au capital des entreprises. Si vous, aujourd'hui, vous êtes une entreprise, eh bien, la moitié de votre performance boursière de ces dernières années est uniquement due aux banques centrales. Et donc, on croit que c'est de la performance économique là où ça n'est pas. Et aussi, on explique que quand la bourse monte, c'est tous les ménages qui bénéficient. C'est une richesse collective, vraiment.
On vous dit, ça, tout on le dit monde surtout est gagnant aux États-Unis, ça, on le dit. Aux États-Unis, surtout.
Ça, oui, parce que j'ai pris l'exemple de Fox News qui voulait favoriser Trump et qui disait, oui, tous les ménages ont des bénéfices records. Enfin, leur fortune est à un record et tout. En vérifiant, vous découvrez que seuls 10% des ménages sont exposés à la bourse. Et donc, non, quand la bourse monte, on n'est pas tous gagnants, y compris nos caisses de pension, nos fonds de pension. Ils ne reçoivent pas du tout autant d'argent que d'un investisseur privé touche sur son portefeuille. Les fonds de pension, ils versent un peu sur les avoirs de retraite, mais ils versent l'essentiel sur les réserves pour longévité, par exemple.
Sur les paradis fiscaux aussi, il y a beaucoup de désinformations. Depuis 8 ans, en effet, on assiste à des fuites massives d'informations, les Panama Papers, les China Leaks, les Pandora Papers. À chaque fois, on a des milliers de cas d'évasion fiscale avec les noms et les montants. Mais à chaque fois, les fuites proviennent de paradis fiscaux de second ordre, on va dire, en Suisse, au Liechtenstein, au Panama, à Malte, à Monaco, à Dubaï. Il n'y a jamais eu, dites-vous, d'USA leaks ou de Grande-Bretagne leaks. Et aux USA, on le sait bien, les États du Dakota du Sud, du Delaware, du Nevada, du Wyoming sont des paradis fiscaux. Et toutes ces fuites, en fait, d'après vous, ça bénéficie justement aux paradis fiscaux américains. Parce que ça prouve que seuls les États-Unis sont capables de protéger les données de leurs clients. Et pas Malte, et pas Liechtenstein, et pas la Suisse.
Exactement. Tout ça est évidemment fondé sur des faits. C'est-à-dire que depuis qu'on a cette série de leaks, on ne connaît pas la source des leaks. Pourtant, ce sont des giga données que pas n'importe quel informaticien peut sortir comme ça d'un paradis fiscal. Et l'interrogation, c'est qui est la source ? Après, je vois qu'il y a beaucoup de confrères qui ne pensent pas beaucoup à la source. C'est pas important, du moment qu'ils reçoivent un CD avec énormément de données, ils vont y travailler. Tant mieux, il y a plein d'informations intéressantes qui sortent sur les pratiques des paradis fiscaux en général. Mais effectivement, vous constatez qu'il n'y a jamais eu les Delaware Leaks et les London Leaks. Maintenant, où est le problème ? C'est que il se trouve que le Delaware, Londres, ils sont numéro un dans l'indice d'opacité financière. Ils sont les principales places aussi de blanchiment d'argent dans le monde. Donc, comment ça se fait que jamais ces juridictions ne sont exposées, et les personnalités aussi. Vous avez souvent des rois du Golfe et de Jordanie, vous avez des proches de Poutine, ça c'est toujours le cas, des oligarques, des machins, mais vous n'avez pas des congressmen, vous n'avez pas des personnalités de l'Occident, alors que c'est là où les plus grandes fortunes, et de loin, se concentrent. Si vous regardez la répartition des plus grandes fortunes dans le monde, le plus grand nombre de milliardaires et de loin qui pourraient évader le fisc, qui ont ce genre de pratiques, ils sont évidemment aux États-Unis, en Europe occidentale et en Angleterre. Mais on n'a jamais ces personnalités qui apparaissent. Or, on sait que quand, par exemple, le président Abacha du Nigeria avait ses fonds en Suisse, il n'y avait que 10% de ses fonds qui étaient en Suisse. Le reste était à Londres. On n'avait pas d'informations là-dessus. Mais la Suisse est tout le temps exposée. Comme vous dites, les tout petits micro-juridictions sont exposées et pas les immenses juridictions. Par ailleurs, avant que ces leaks sortent, on a vu la main très active des gouvernements dans les leaks qui précédaient. Par exemple, l'affaire Falciani, c'était le gouvernement français était très présent, il était en contact avec Hervé Falciani chez HSBC à Genève. Ils l'ont aidé à sortir les données de la banque, ils l'ont planté dans son ordinateur en France. On sait l'intervention des gouvernements. Le gouvernement allemand a espionné Crédit Suisse, il y avait une taupe du gouvernement allemand au Crédit Suisse. Tout ça, ce sont des faits. Donc aujourd'hui, la main des gouvernements peut potentiellement être derrière. On devrait s'y intéresser, on devrait se demander pourquoi le déséquilibre aussi énorme dans les informations. Les dernières leaks, la Swiss Secrets, c'est l'OCCRP qui les a sortis. Son donateur, un de ses principaux donateurs, c'est le département d'État américain. Il faut s'intéresser donc à qui finance ces consortiums.
Et qui a intérêt. Qui a intérêt.
Bien sûr, c'est élémentaire dans notre métier. C'est la base du métier.
Merci Mireille Zaki. Je renvoie vers votre livre « Désinformation économique » et encore beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Ça vient de paraître chez Favre. On se retrouve juste après une pause avec les invisibles de l'Élysée.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Émeric Doliger.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Avec le photographe Sacha Goldberg, vous publiez aux Presses de la Cité « Les Invisibles de l'Élysée », un livre consacré à tous ceux qui font fonctionner le 55 Faubourg Saint-Honoré, un palais de 365 pièces et de 15 000 mètres carrés de jardin. Alors ils sont gendarmes, jardiniers, horlogères, huissiers, fleuristes, chargés du protocole, opératrices d'accueil, cuisinières, chefs cavistes, sommelières, transmetteurs, chauffeurs. Alors il faut dire que vous avez fait votre service militaire à l'Élysée. C'était la dernière année du mandat de François Mitterrand. C'est ça qui vous a donné l'idée ?
Pas du tout. C'est le livre d'après, qui m'a donné l'idée, qui était un livre sur les cheminots, ces invisibles donc de la SNCF qui font des choses assez extraordinaires. Et je me suis dit, mais j'ai fait mon service là-bas, j'ai parlé des invisibles de la SNCF, pourquoi je ne fais pas un combo des deux ? J'ai proposé l'idée et on m'a dit oui.
Alors, ils appellent tous le président l'EPR,
oui,
pour président de la République. Certains en ont servi plusieurs. Et on apprend en vous lisant que le PR ne se promène jamais seul dans le palais.
Jamais.
Même dans le palais,
il y a
Mike, c'est un pseudo. Oui. Il est l'épaule du PR.
Oui, il y a deux personnes, en fait, quand il se promène dans le palais. Il a devant lui un huissier, à 3 ou 4 mètres devant lui, pour ouvrir la voie. Et il a à son épaule, souvent l'épaule droite, quelqu'un qu'on appelle l'épaule, qui est un gendarme qui est là pour assurer sa sécurité, même à l'intérieur du palais.
Oui, c'est ça, il est quand même chez lui, le président. Il a besoin de quelqu'un qui assure sa sécurité. On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Ouais. On croise beaucoup de monde dans ce palais. Est-ce que c'est un club de rencontres? Est-ce qu'on se marie entre employés de l'Élysée? Est-ce qu'il y a des bébés élyséens dont les parents se sont rencontrés en travaillant à l'Élysée?
Oui, il y a des bébés élyséens. Et même la première personne que j'ai portraitisée, qui s'appelle Florine, qui est la garde de l'emporte d'entrée, a rencontré son amoureux à l'Élysée.
Oui, donc ça arrive. Hein.
Ça arrive.
Est-ce que la vie à l'Élysée, pour eux, j'entends, hein, est-ce que ça a changé depuis les attentats, depuis les gilets jaunes?
Bien sûr.
Je sais que la rue du Faubourg Saint-Honoré a été fermée, on ne peut plus passer devant l'Élysée comme naguère. Puis l'on a refermé le jardin que François Hollande avait ouvert au public un dimanche par mois.
Oui.
Voilà, c'est les attentats de 2015 qui ont mis fin à l'expérience. Mais oui, à part ça, est-ce que la vie a changé dans cette bulle?
La sécurité a augmenté. Effectivement, la rue est fermée et puis ils ont un peu doublé tous les postes à peu près partout. Mais à l'intérieur, non, ça n'a pas bougé.
C'est un monde assez fermé sur lui-même.
C'est un monde, c'est une ville. C'est-à-dire que ce soit à mon époque ou à l'époque où j'ai fait mon service militaire ou quand j'ai parcouru les couloirs pour écrire ce livre, c'est le même monde. Ça n'a pas bougé. Il y a toujours à peu près les mêmes caves, à peu près les mêmes pièces qui sont plus ou moins refaites. Mais il y a toujours cette espèce d'endroit qui est fort par son mystère et sa puissance, mais finalement pas très intéressant d'un point de vue immobilier.
Et un peu triste, on dirait, non?
Un peu triste pour certaines pièces, oui, surtout les sous-sols.
Le standard fonctionne 24 heures sur 24.
Oui.
L'opératrice raconte...
Une des opératrices, oui.
Oui, raconte que les particuliers qui appellent l'Élysée sont toujours étonnants. Ils pensent que le président, c'est Superman, il résout tous les problèmes.
Il peut tout faire. Il peut finir de payer telle ou telle chose. Il peut régler un problème de crèche. Il peut faire beaucoup de choses. Mais il y a surtout une chose, c'est quand quelqu'un appelle et qu'il démontre par son appel qu'il a envie de se suicider, là, il y a procédure d'alerte et dans les 4 heures, il y a un gendarme qui débarque chez la dite personne pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'à partir du moment où le président de la République est au courant, eh ben, ça veut dire qu'il doit sauver la personne en question, parce qu'il y a un risque.
Il y a une responsabilité.
Il y a une vraie responsabilité.
On peut dire,
ça, c'est un des exemples, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Quand la personne de la presse raconte tout le courrier qu'elle reçoit, entre 800 et 1000 par jour, ce qui est le vrai baromètre des Français, là aussi, il y a énormément de choses qui sont racontées.
Le majordome du président est un militaire, il a accès aux appartements privés et pendant les voyages officiels, il s'occupe des affaires personnelles, du PR,
très personnel,
de
même.
Ses valises, de sa chambre.
De son caleçon, si vous voulez tout savoir. Il se promène toujours avec plusieurs... Pourquoi est-ce que toujours les présidents sont toujours très propres? Absolument impeccable, les costards toujours.
Parce qu'ils sont présidents, c'est la moindre des choses quand même.
Oui, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours là, à côté d'eux, pour avoir ces 10 costard, toujours prêt à être servi pour le président si jamais il est resté trop longtemps assis, donc il a des plis derrière les genoux, s'il est mouillé, etc. etc. Donc il y a quelqu'un qui est préposé au dit costard.
À ne pas confondre le majordome avec l'aide de camp,
oui,
qui est un militaire lui aussi, mais qui lui est chargé de l'environnement du président et de son orthographe.
Absolument, et puis même de petits détails. Par exemple, quand Jean d'Ormesson aux Invalides, on lui a rendu hommage, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une image assez poignante où on voit le cercueil de Jean d'Ormesson et puis le président de la République déposait un crayon et le collait au cercueil et puis se baissait devant le dit cercueil. Ben, l'aide de camp a été le mec qui a posé le petit bout de scotch juste avant pour que le président puisse poser le crayon devant.
Mais quand il surveille l'orthographe du président, ça m'a paru étonnant ça.
Imaginez-vous que vous êtes devant quelqu'un d'important d'un autre pays, mais c'est une langue différente de la nôtre, avec une orthographe différente de la nôtre, et donc comment vous faites pour bien prononcer le nom? Eh bien, vous l'écrivez en phonétique. Et l'aide de camp fait partie de ces gens qui font attention à ce genre de petits détails.
Et il corrige aussi éventuellement le président quand il a rédigé un petit mot sur un livre d'or, par exemple.
Il peut.
On fait une pause, on se retrouve tout de suite après, Mouride Olugier. Vous allez nous livrer d'autres secrets.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé demain.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Emery Doliger qui, avec le photographe Sacha Goldberg, publie aux presses de la Cité Les Invisibles de l'Élysée. Il y a très peu de CDI hein, parmi les Invisibles de l'Élysée.
Il y en a de moins en moins.
La plupart sont des contrats de 3 ans où ils sont carrément liés au mandat présidentiel.
Oui, c'est jusqu'à Sarkozy, il y avait beaucoup de CDI. Puis Sarkozy a décidé qu'il fallait que l'ensemble du personnel contractuel, parce qu'à côté de ça, il y a des fonctionnaires et des militaires, que l'ensemble du personnel contractuel soit plus proche des militants pro le PR, le président de la République, plutôt que des gens qui étaient là avant et qui sont là après.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transmetteur? J'ai énuméré tous ceux dont
vous avez bossé.
Les jardiniers, les horlogères, mais le transmetteur.
Le transmetteur, il transmet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les films américains, il y a longtemps, quand on les regardait à la télévision, il y avait toujours quelqu'un qui portait un énorme sac derrière lui avec une radio. C'est ça le transmetteur. C'est en fait celui qui communique tout ce qui se passe autour du commandant qui monte à l'assaut de tel ou tel ennemi. Eh bien, c'est une survivance de cette époque-là. Le transmetteur transmet. Il a tous les téléphones du président de la République, plus tous les téléphones qu'on aurait pu lui confier, que d'autres présidents auraient pu lui confier. Et il vit des moments assez particuliers. Un exemple, vous vous souvenez, Jacques Chirac déambule dans Tel Aviv pendant 4, 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais plus. Eh bien, le transmetteur, c'est celui qui...
C'est le moment où, justement, il y a une foule terrible.
Il y a les policiers
israéliens qui veulent le protéger, mais lui ne le prend mal. Enfin,
il le prend mal, mais ça, c'est la fin de la balade. Mais pendant cette balade-là, comme Emmanuel Macron, quand il a déambulé dans Tel Aviv pendant 6 ou 7 heures aussi pareil, eh bien, il y a quelqu'un qui est censé imprimer tous les éléments qui viennent du palais ou d'ailleurs pour ensuite transmettre cette dite impression à l'aide de camp qui décide si oui ou non il le transmet au président de la République. Mais il faut l'imprimer. Et donc imprimer en déambulant dans les rues de Tel Aviv, je vous laisse imaginer tout le matériel qu'il transporte avec lui.
On apprend également que l'argentier du palais de l'Élysée, ce n'est pas celui qui tient les cordons de la bourse, c'est le responsable de l'argenterie et de l'art de la table, qui est à la française évidemment. Et on apprend que l'Élysée ne possède rien, ce sont des prêts de la manufacture de Sèvres.
Absolument, l'Élysée est pauvre, contrairement à tout ce qu'on a pu lire ici ou là, mais tout ce qui appartient à l'Élysée en fait ne lui appartient pas, c'est juste des prêts qui appartiennent soit au mobilier national, soit à la manufacture de Sèvres, oui.
Alors moi, celle que j'envie le plus, c'est la responsable des fleurs, parce qu'elle va à Rungis 2 fois par semaine.
C'est
elle
ça.
Fait des bouquets pour tous les vases dans les espaces de réception.
Oui.
Elle doit jongler avec un nombre de vases et de fleurs absolument féeriques. Et en plus, elle les réutilise plusieurs fois.
5 fois. C'est-à-dire que, et ce qui est assez drôle, c'est-à-dire qu'au début, au tout début de sa carrière, c'était en 92-93, c'était pas 5 fois, c'était 2 fois. Et puis, avec les économies faisant, les obligations environnementales, les évolutions écologiques de la vie, etc., finalement, une grande fleur qui fait 1 mètre, 1,50 m, arrive en tout petit vase, sur une table.
Elle peut être carrément sur des simples fleurs flottantes pour décorer la table.
Oui.
Mais c'est quand même un très joli métier.
Ah ben elle en parle avec une douceur, vous lirez dans le portrait. Vous, les gens qui nous écoutez, elle en parle avec une douceur et une chaleur assez hallucinante. Et l'art de la fleur est un vrai art, parce qu'avant c'était très coloré, maintenant c'est plus pastel. Donc elle explique le pourquoi.
Oui, effectivement, ça dépend des goûts.
Ça dépend des goûts.
Évidemment. C'est d'ailleurs important, on sent bien que le président, mais aussi la femme du président, donne le ton.
Absolument.
De l'ambiance qui règne dans ce palais.
Alors, pas toutes les femmes du président. Vous verrez que dans le livre, il y a le top 6 des premières dames. Je vous laisserai découvrir la chose. Mais effectivement, le président, comme la première dame, donne le ton du palais.
Et ça tient à quoi ?
Ça tient à la capacité de prendre ou pas possession du palais. Sans trahir de secret, il est évident qu'une Bernadette Chirac, qui est restée beaucoup plus longtemps qu'une Cécilia Sarkozy, a véritablement pris la mesure du palais. Et vous lirez dans le livre, au travers des portraits, ce que chacun pense de chacune.
Alors vous, ce serait quoi votre emploi de prédilection si vous deviez retravailler à l'Élysée la première fois pendant votre service militaire, vous étiez à l'intendance. Mais maintenant que vous savez ce que font tous ces invisibles, vous aimeriez faire quoi ?
J'ai deux passions, parce que c'est des gens extraordinaires qui m'ont donné envie de les suivre. C'est le jardinier de l'Élysée, qui fait des choses absolument magnifiques. En 1992, François Mitterrand pose sa main sur son épaule et lui dit « Je m'ennuie dans votre jardin ». Et il a tout changé, vous irez lire. Et puis il y en a un autre qui est un parcours de fou, qui est le chef pâtissier. Il vient de Taïwan. Il voulait faire absolument des gâteaux et il se retrouve à l'Élysée par un miracle hallucinant, une histoire de fou là aussi. Et ces deux personnages-là m'ont particulièrement touché.
Et c'est vrai que lui, à chaque fois, il croit pouvoir quitter la cuisine et à chaque fois,
il y retourne.
Mais Brigitte Macron lui réclame à nouveau tellement elle adore.
Oui, tellement elle adore. Et puis, mais tout ça est motivé par quelque chose de très particulier chez ce garçon-là et je vous invite à le lire.
D'accord, je conserverai le suspense.
Merci, c'est gentil.
Merci, Emery Doliger.
Merci à vous.
Le livre s'intitule Les Invisibles de l'Élysée et il est paru aux presses de la Cité. On se retrouve dans un instant avec Gauthier Battistella qui publie un nouveau roman intitulé Chef. On va parler là encore de service à la française.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Gauthier Battistella.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous publiez votre troisième roman, il s'intitule Chef. C'est fou le nombre d'émissions consacrées à la cuisine, le nombre de films, de séries, de documentaires dont les héros sont des chefs cuisiniers. Mais des romans, c'est beaucoup plus rare, hein. Il faut dire que vous avez eu le temps de vous documenter. Vous avez été 15 ans journaliste gastronomique au Guide Michelin.
Oui, c'est exact. Et c'est un livre qui a mijoté en moi assez longtemps. Alors c'est vrai je crois qu'il n'y a aucun roman sur l'histoire de la gastronomie, en tout cas sur la gastronomie elle-même. Et pour moi, ça m'a paru être une évidence au bout d'un moment. Et pour une chose essentielle, c'est que je voulais écrire sur la cuisine, c'est que j'ai un appétit de cuisine pour la cuisine elle-même, mais aussi évidemment pour tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire les soirées entre amis, une légère ivresse, la joie de vivre. Et c'est un livre que j'ai commencé à rédiger pendant le premier confinement, dont vous pouvez imaginer combien il était urgent aussi de flatter mon appétit à travers l'écriture.
Il n'y a pas que l'histoire de convivialité, il y a aussi la mort, le sang, les rivalités. Mais avant d'en arriver là, Gauthier Battistella, comment vous expliquez la fascination qu'exercent aujourd'hui les chefs étoilés, et pas seulement en France, hein, où c'est une tradition, que ce soit aux États-Unis, en Roumanie ou dans les pays du Golfe, il y a la même.
Ça, c'est une excellente question. Je pense que les chefs représentent, sont des héros éminemment romanesques, presque à leur corps défendant. Ce sont des gens qui ont quitté l'école très tôt, souvent, à qui on avait mis une étiquette. On s'est dit, lui, il va aller en bac pro. Et ces gens-là ont déchiré l'étiquette. Et pour devenir quoi? Pour devenir des artistes. Et ce qu'il y a de formidable, quand je les ai beaucoup côtoyés, c'est-à-dire que j'ai de nombreux chefs qui sont amis, j'ai passé beaucoup de temps en cuisine.
Il faut dire qu'un journaliste gastronomique, ça dépasse un inspecteur du Guide Michelin. Hein.
C'est-à-dire que l'inspecteur n'a pas le droit, ou s'adresse très peu aux chefs, ouais. N'a pas le droit véritablement d'avoir des relations personnelles avec les chefs. Moi, j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance d'être ami avec de nombreux chefs. Je peux même vous raconter une petite anecdote. Alain Ducasse, à une époque, au Plaza Athénée, voulait écrire un livre où il y aurait un auteur, un photographe qui s'intéresse aux cuisines. Et donc, je me suis déguisé en commis pendant 3 jours. J'arrivais le matin avec les légumes, je repartais le soir avec les mignardises, incognito, et j'ai pris des notes. Et
là, c'est vrai Alain que c'est Ducasse savait que c'était vous.
Bien sûr. Il était le seul à savoir. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que ce que j'ai raconté de ce qui se passait en cuisine, et c'est là où peut-être on va revenir à la violence, c'est une espèce de ronde infernale, créative mais insensée. Et je me souviens d'un jeune apprenti, ça faisait 6 mois qu'il était au pigeon. Alors être au pigeon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son boulot, c'était d'enlever les poils du pigeon à la pince à épiler, de passer le chalumeau derrière. Et ce jour-là, il y a eu un accident, un tendon, du sang, l'ambulance est venue. Donc Alain Ducasse a dit non, peut-être que ça ne donne pas une image très, très
mais vous dites
suffisamment
que
rêveuse
les...
de la gastronomie.
Et ça peut faire partie des explications, pourquoi sont-ils devenus des rockstars? C'est que c'était une profession de voyous, dites-vous, et que le cuisinier d'aujourd'hui se doit d'être beau, vertueux, solidaire, bienveillant, convivial. C'est pas les mêmes, en fait.
Non, ce sont pas les mêmes. Là, quand je parle de ces cuisiniers-là, je parle des cuisiniers 2.0, c'est-à-dire des cuisiniers qui cuisinent et tout en instagrammant. La population de voyous, ce que j'appelle affectueusement des voyous, ce sont des gens, par exemple, à la sortie de la guerre, par exemple, Paul Bocuse était un rusé malin. C'est-à-dire qu'on ignore beaucoup de choses de Bocuse, mais il allait notamment dérober des jeeps à l'armée américaine qui revendait à Lyon. On sait aussi que Bocuse était un petit peu le patron de la ville de Lyon. C'est-à-dire qu'on ne s'installait pas à Lyon en tant que chef sans avoir son autorisation.
Oui, c'est quelque chose que vous expliquez bien dans votre roman, Gauthier Battistella. Vous dites que les rivalités locales sont terribles entre chefs. Toutes les principautés gastronomiques se sont mises en place autour de potentats locaux. L'arrivée d'un étranger met en péril le fragile édifice des alliances et des pactes de non-agression.
C'est toujours vrai aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'il y a des générations de chefs. Et quand je parle de génération de chefs, par exemple, la Maison Blanc remonte aux années 30 avec la Mère Blanc, puisque la gastronomie moderne telle que nous la connaissons a commencé, on peut remonter cela aux années 30 avec les grandes mères lyonnaises. On se souvient de la Mère Brasier. On se souvient de
la Mère Bourgeois aussi.
La Mère Bourgeois, évidemment. Au Mont-Saint-Michel.
La Mère Poulard.
La mère Poulard. Il y a Fernand Poing aussi à ce moment-là. Vous savez, c'est le grand moment des congés payés aussi, en fait, si on avance un petit peu dans le temps. Mais ces femmes-là, et d'ailleurs, je trouve qu'il est important d'en parler, ces femmes-là ont créé la gastronomie moderne à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un chéquier. C'est-à-dire que la mère Brasier a quitté sa famille, elle a abandonné son fils pour aller faire fortune à Lyon, toute seule pour devenir nourrice.
Et vous dites aussi que ensuite les hommes se la sont appropriée, cette gastronomie inventée par des femmes.
Alors les hommes se sont appropriés cette gastronomie. En fait, c'est vraiment l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que, et c'est ça la différence, si on compare par exemple la culture gastronomique italienne avec la culture gastronomique française, les mamas italiennes règnent encore sur la culture gastronomique italienne, qui est une cuisine de la cuillée, et sur la cuisine française, qui est une cuisine de la fourchette. En effet, on a tout le service à la française qui est devenu, en effet, les patrons de la gastronomie sont des hommes. J'ai juste une chose à ajouter là-dessus, c'est que très longtemps, les hommes, les patrons des restaurants étaient les directeurs de salle. C'est eux qui donnaient la personnalité au restaurant.
On se souvient de Louis de Funès dans Le Grand Restaurant, il est le directeur de salle.
Il est le directeur de salle.
Et il est en guerre avec le cuisinier.
Toujours. Et le cuisinier qui est un type assez gros, qui transpire. Et le grand changement, le changement essentiel dans les années 70 avec la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est Bocuse, c'est Guérard, c'est Trois Gros. C'est qu'on va passer d'un service finalement de découpe en salle, donc où le directeur de salle est indispensable, à un service à l'assiette. C'est-à-dire que tout est fait en coulisses et ce sont ces coulisses que j'ai essayé de raconter.
Alors, votre roman commence par un suicide, un chef très en vue, 3 étoiles au Michelin, qui vient d'être sacré meilleur chef du monde, que l'on retrouve mort, son fusil de chasse à la main. Ça rappelle évidemment la mort de Bernard Loiseau en 2003, celle de Benoît Violier en 2016. Et il n'y a pas que ça comme analogie avec votre roman, c'est que dans les deux cas, ce sont leurs épouses qui leur ont succédé en s'appuyant sur le sous-chef, le bras droit de leur mari, et qui ont réussi à maintenir les 3 étoiles dans leur établissement. Il faut savoir effectivement que les étoiles sont attachées à l'établissement et pas au chef.
Oui, c'est exact. Alors, c'est plus le cas pour Madame Loiseau que pour Madame Violier, qui, je crois, a quitté aujourd'hui l'établissement. Mais en effet, c'est passé, le pouvoir est passé à la femme. Après, vous savez, il est très difficile pour un restaurant de se remettre de la mort de celui qui l'a créé, qui en constituait l'identité propre.
Vous l'expliquez bien d'ailleurs, parce que vous dites le chef est à la fois patron, papa, confident, juge suprême, et une brigade, aussi soudée soit-elle, n'existe que par lui, que pour lui. S'il disparaît, chacun reprend sa liberté.
Ce qui est vrai, c'est que le chef fait la brigade, le chef fait le tempérament du restaurant, le chef ne fait pas uniquement des assiettes, c'est lui qui donne le tempo de la cuisine et la personnalité. Je crois que savoir que vous connaissez Monsieur Gagnère, vous allez dans les cuisines de Pierre Gagnère, il y a une espèce de douceur, de lenteur, de poésie qui correspond à
exactement,
sa personnalité.
Ouais.
Et dans d'autres cuisines, c'est différent.
Vous dites aussi que c'est un milieu qui ne parle pas. Les cuisines ont beau être ouvertes aujourd'hui, hein, elles sont toutes à l'américaine, ce sont des lieux clos où la discrétion est une vertu cardinale.
Mais écoutez, c'est tout le sujet de MeToo en cuisine, par exemple. C'est est-ce que MeToo arrivera à entrer en cuisine ? Ce qui est difficile, c'est un milieu qui est très clos. C'est-à-dire que si quelqu'un parle, il n'a aucune chance de se faire embaucher. Donc, pour beaucoup de gens, c'est vu. Et même les jeunes femmes, par exemple, qui ont été harcelées et qui ont parlé, n'ont jamais mentionné leurs harceleurs. Ça, c'est assez notable, contrairement au monde du cinéma ou dans les arts où les personnes sont désignées.
Autre chose que vous dites, Gauthier Battistella, dans ce roman, et c'est très différent de ce qu'on nous en montre à la télévision en général, c'est vous dites qu'un cuisinier heureux, ça n'existe pas. Devenir chef, c'est entrer en conflit avec l'univers.
Je pense que les cuisiniers sont heureux dans leur acte créatif, mais la question que je me pose, c'est aujourd'hui, que représente l'acte créatif dans le biotope, on va dire, un petit peu dans la survie du restaurant, c'est-à-dire quelle part reste-t-il à la créativité à ce moment d'intensité où ils inventent un plat. C'est-à-dire que le restaurant, c'est une entreprise, ce sont des charges, le restaurant, c'est un navire qui a dû affronter, par exemple, les vagues du confinement. Un restaurant doit devenir aussi un lieu médiatique, puisqu'aujourd'hui, ne pas communiquer sur ce qu'on fait, c'est risquer de disparaître. C'est-à-dire que la façon dont on faisait la cuisine dans les années 70, dans les années 80, où on avait des grands noms qui étaient copains avec des stars, enfin, Bocuse sonne encore dans le ciel français comme un nom indispensable. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'on a d'une part des chefs, on va dire, qui vont rechercher les étoiles, et de l'autre part, des chefs surmédiatisés qui ont fait Top Chef, qui finalement n'ont plus besoin de cela. Et donc là, il y a une scission qui est réelle dans ce monde, qui est une scission aussi générationnelle.
Ça s'intitule Chef, c'est votre troisième roman, Gauthier Battistella. Il vient de paraître aux éditions Grasset. Merci.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite un bon dimanche. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée ?
Bonjour cher Frédéric, deux invités pour le grand rendez-vous. Tout d'abord Adrien Quatennens pour La France Insoumise et puis Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Et pour les interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia, bonne émission. Europe 1.